Monsieur le maire, rien ne rejoint son scène. Et donc, nous allons aborder maintenant les jours d'avenir.
Oui, justement, Ali me disait que dans la petite clôture de la partie bilan sur le PADD, effectivement, il y a un axe qui consiste à dire se centrer sur la haute satisfaction de l'expérience client. Ben, c'est juste une réflexion à faire par rapport à ça. Aujourd'hui, notre économie, le village, si vous voyez cette salle, la crèche. Aujourd'hui, il ne faut jamais oublier que c'est toutes les infrastructures qu'on a aujourd'hui sont en très grande partie dues au tourisme. Il ne faut jamais l'oublier parce que, je dis souvent, on a parfois tendance un peu à oublier que les habitants permanents bénéficient d'un haut niveau de structure, communale, qui ne sont que, j'ai envie de dire, très majoritairement liées au ruissellement de l'économie touristique. Donc il ne faut jamais l'oublier. Raison pour laquelle, en termes de plan et vision à long terme, évidemment qu'on a mis des points sur la revitalisation de l'habitat permanent. Évidemment que ce point-là, il est indispensable, parce qu'on s'est juste rendu compte, notamment particulièrement cet hiver, que l'effet Covid a fait qu'on rentre dans une logique où on a du mal à recruter des saisonniers. Et donc forcément, ben, il n'y a pas de tourisme sans une habitation permanente vivace. Et donc plus ces habitants permanents partent, moins on a de forces vives pour faire vivre notre tourisme. Donc c'est « et ». La politique, c'est « et ». Mais en ligne de mire, on doit toujours quand même avoir pour objectif de valoriser notre économie pérenne. Julien l'a dit, c'est effectivement un des enjeux majeurs, par une diversification certes, mais ne nous voilons pas la face. Effectivement, le messager, la semaine dernière, titrait sur sa une « Le tourisme de quelle saison ? Une utopie ». C'était un titre un peu provocateur, et on se pose aussi cette question. Donc, est-ce que le tourisme de quelle saison est une utopie ? Raison pour laquelle, aujourd'hui, effectivement, on s'est dit que la diversification économique devait aussi passer par d'autres secteurs. Mais il ne faut pas rêver. La base de l'économie, le poumon de notre économie, etc., restera l'économie touristique. Et raison pour laquelle, aujourd'hui, il faut toujours avoir ça en ligne de mire. Et quand on dit notre économie, depuis 70 ans au carreau, elle a vécu sur le ski. Je veux dire, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. La richesse des carreaux, c'est produit par l'économie du ski. Sauf qu'aujourd'hui, l'édifice est un peu en train de trembler par rapport à le réchauffement climatique, et donc toutes les stations de montagne se posent les mêmes questions transcendantales. Comment assurer la transition? Et nous, la transition, on l'a caractérisée par, déjà, occupons-nous de la satisfaction de nos clients. Les 20 ou 30 dernières années se sont fait, le tourisme s'est beaucoup développé sur l'aspect quantitatif des choses, le développement de résidences de tourisme. Et donc, on avait souvent tendance à dire, voilà, un lit supplémentaire, c'est X milliers d'euros assurés pour la montée des clés. Enfin, sauf que quand vous vous trouvez sur les vacances de février en surfréquentation, on peut penser quand même qu'on est en train de toucher des limites, et les gens qui skient en février, etc., passent plus de temps à essayer de regarder à droite à gauche pour ne pas se prendre un skieur sur la tête. Donc, cette limite, aujourd'hui, on peut commencer à l'atteindre, et on peut vite basculer vers de l'insatisfaction client. Donc, j'ai presque envie de dire que maintenant, l'ère du quantitatif est terminée, on doit résolument entrer dans l'ère du qualitatif. Ça, c'est absolument fondamental que de le penser. Et je pense que, secteur par secteur, il faut, s'orienter sur ce mot charnière qui est le mot qualitatif. Et la qualité, elle passe parfois par une mesure qui s'appelle la satisfaction des gens qui nous visitent. Voilà. Et donc, raison pour laquelle on a mis ça en tête de chapitre tout en haut, hisser la commune au sommet des meilleures expériences clients par la destination de montagne. Alors, il y a des études, hein, parce que souvent, quand on met des objectifs, il faut savoir les mesurer, parce qu'ils ne se mesurent pas, ne s'atteint pas. Donc, on a par exemple des études qui sont menées par côté client. Je vois qu'il y a Fred qui est là dans la salle, avec, en relation avec GMDS. Où on mesure la satisfaction du client tous les années et en même période sur les mêmes échantillons. Donc ça c'est quand même un bel indicateur de performance. Bon, bah, quand il y a des clignotants rouges qui s'allument, et la fréquentation, par exemple, en fait, c'est possible, hein. Donc, ne nous bourrons pas, vous le verrez dans les actes futurs, et de toute façon, l'État a de plus en plus imposé aujourd'hui des restrictions sur le plan d'artificialisation des sols. Donc, les projets, maintenant, dans les 10 prochaines années, ils vont se compter sur les deux mains. Clairement. Non seulement, moi, à mon niveau, en tant qu'élu, je pense que de toute façon, cette loi zéro artificialisation nette, hein, elle a des vertus, même si aujourd'hui, c'est des projets qui sont un peu balancés, j'ai envie de dire, un peu en appel, et maintenant, il y a quand même aussi pas mal de concertations à faire, et je sais que le Sénat a lancé une consultation auprès des maires pour les interroger sur cette fameuse loi zéro artificialisation nette, parce que c'est pas que simple. Aujourd'hui, parler d'écologie, c'est bien, sauf que aujourd'hui, le développement durable, c'est l'équilibre entre le développement économique pérenne, une écologie vertueuse et un développement social, comment dire, abouti. Et donc, les gens qui aujourd'hui n'ont qu'un seul discours que sur l'écologie, ok, c'est bien gentil, mais si vos enfants perdent leur boulot dans 5 ans, vous me parlerez peut-être un peu moins d'écologie. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est de faire la synthèse entre ces trois piliers. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui. Donc voilà, je conclurai juste sur cette notion d'objectif. On va passer maintenant à la partie qui est à venir. Julien l'a dit, on a fait une vision. Donc, je ne suis pas en train de vous parler des projets qu'on va faire dans les 20 ans qui viennent. C'est complètement ridicule. Une vision, c'est une direction. Donc là, on a essayé de caractériser les projets dans les 4 années qui viennent, un peu à l'échelle du mandat, où on pense qu'on a quand même un grand pourcentage de chances de pouvoir réaliser ces projets, en réglant tous nos problèmes de surendettement, de finances, etc. Mais on s'est dit, d'une manière pragmatique, on a quand même une forte chance de réaliser les projets que je vais vous présenter à un horizon de 4 ans. Et pour autant, il y a un an, la guerre en Ukraine, personne n'en parlait. La guerre en Ukraine a fait subir un tremblement de terre sur le fait que tous les approvisionnements mondiaux ont été transformés. Il y a eu une hausse fulgurante des coûts des matières premières. Ça change quand même la donne, cette affaire. Et donc forcément, il y a des projets qu'on ne peut plus faire. D'autres qu'on doit mettre dans les placards, d'autres qu'on doit remettre au calendrier grec. La vie, elle est comme ça. Donc ce que je vais vous exposer là aujourd'hui, c'est des projets qui, allez, je vais dire, à 70%, on va mettre toute l'énergie qu'il le faut pour pouvoir les réaliser. Maestro. Alors, dans le cadre de ces projets, je vais reprendre les 4 axes que Aline vous a présentés une fois. Et donc, ces 4 axes, aujourd'hui, dans un des premiers axes, à revitaliser l'habitat permanent. Les communes de montagne subissent maintenant depuis 20 ans une érosion de leur habitat permanent. Cette constante, elle est présente dans toutes les économies de montagne. Il y a peut-être une exception, c'est Saint-Gervais, de mémoire. Jean-Marc Pélex est très fier. Et donc, on doit prendre ce problème très très au sérieux. Évidemment, on ne récolte que ce qui a été semé depuis 30 ans. On va non plus se cacher derrière ce qu'il doit. Donc aujourd'hui, la hausse de l'immobilier fait qu'à un moment donné, il y a toutes les catégories de personnes qui ne savent plus vivre dans nos communes. Voilà. Donc ces gens-là vont habiter à Marmois, à Étier, à Sionzier, ils vont habiter dans la vallée où l'immobilier est moins cher. Pour l'anecdote, sur la communauté de communes plus Harvey-Montagne, Arrache est la commune où l'immobilier est plus cher. Aujourd'hui, on a en moyenne, un taux de l'immobilier à 4700 euros le mètre carré. Donc, on est pratiquement au double du deuxième. Donc, voilà. Et aujourd'hui, vous prenez certaines résidences, le Grand Serre, le Rendu qui se construit, et les appartements qui se vendent à 8000 euros le mètre carré. 8000 euros le mètre carré. Donc l'écart est quand même assez fort. Donc Aujourd'hui, on est dans un processus d'accélération de la hausse de l'immobilier. Et donc, on est en train de creuser davantage ces problèmes. Donc, la revitalisation de l'habitat permanent est un sujet. C'est un sujet aussi qui a un coût pour la collectivité. Il ne faut pas se leurrer. Donc, on a un certain nombre de projets. On a notamment ce fameux projet des crêtes, qui s'appelle le projet Quartz.
Le Quartz.
Le Quartz. Voilà. Donc, ça, c'est un projet qu'on pouvait. Qui était nommé Désir. Et qui est dans les tuyaux depuis 10 ans, qui va enfin sortir. Enfin sortir. Il va sortir, pas forcément dans son, dans sa définition initiale, parce qu'initialement, c'était un projet qui, comportait 34 logements, d'accord, qui a été ramené à 24 logements. Pourquoi ? Il dit, putain, il est en contradiction, il me raconte qu'il y avait des besoins, qu'il y avait eu le projet de 34 à 24. Oui, enfin, sauf qu'aujourd'hui, ce projet nécessitait de donner le terrain au singulier plus donner une subvention de 600 000 euros. Donc quand on fait des projets comme ça, qu'on a des soucis financiers, etc., qu'il faut renflouer les caisses, on fait le choix. Donc on a fait le choix de réduire la voilure, mais par contre, on économise la subvention de 600 000 euros. Les 600 000 euros, ils servent quand même à boucher un peu trop la sécu. Donc, mais on fait quand même, et on avance quand même sur le projet. Donc ce projet, je suis très content qu'il sorte parce que ça permettra d'avoir 12 logements en accession aidée et 12 logements en locatif aidé. Donc ce projet, il est signé, on n'a plus de recours et il verra le jour en 2024. Voilà, donc ça, c'est une première victoire. Le deuxième projet qu'on a, c'est le projet de la cure de la Frasse. La cure de la Frasse qui est aujourd'hui un magnifique bâtiment, mais qui n'est plus, qui est exploité depuis chez Jean-Louis Néné, dans 5 ans, j'en sais rien. Donc, on va y réaliser 4 logements, et puis on est le propriétaire de cette cure. Nous allons réaliser 4 logements, pareil, en accession. Alors, quand je dis habitat permanent, ça ne veut pas forcément dire que des logements sociaux. Ça veut dire que la revitalisation permanente, elle est importante dans toute catégorie de, d'habitants. De gens qui sont éligibles à l'habitat social, jusqu'à des gens qui ont la capacité de vivre en carreau et se construire en chalet, sont des catégories de personnes avec un plus de moyens. Mais c'est aujourd'hui, cette catégorie de personnes nous intéresse aussi. Donc aujourd'hui, là, on est plutôt sur un habitat intermédiaire. Ce n'est pas du logement social, mais ça sera de l'intermédiaire. Donc voilà un peu le deuxième projet. Le troisième projet, c'est le logement des saisonniers. Alors aujourd'hui, c'est pareil, on a une vraie problématique de logement des saisonniers. On a racheté le bâtiment IGESA, donc c'est le bâtiment qui s'appelle le Croix des Sept Frères. On a signé la semaine dernière, donc je peux vous dire que ce projet va se faire. Donc on est très très content. Je pense que grosso modo, on parle de combien de logements, Eli ? Des colocations. Donc voilà. Donc ce projet-là, on est content aussi qu'il se réalise, parce que c'est pareil, nos saisonniers, c'est ce que j'appelle, moi, des habitants semi-permanents. Les semi-permanents, ben, ils font vivre notre tourisme. Et quand vous avez, cette année, on l'a vu à plusieurs reprises, on a parfois des restaurants qui devaient fermer une journée dans la semaine parce qu'ils n'avaient pas les saisonniers qui leur permettaient de mourir pleinement. Donc on est aussi dans une vraie problématique, qui plus est, il y a une réforme de l'assurance chômage qui n'a pas facilité les choses. Donc on se retrouve avec cette possibilité de faire naître des projets pour accueillir des saisonniers. Là aussi, il y aura un coût pour la collectivité, puisque aujourd'hui, les loyers qui seront proposés aux saisonniers sont des loyers qui seront 30, 40, 50% en dessous du prix du marché. Mais quand vous êtes saisonnier et que vous gagnez 1200 euros net ou à peine, il est clair que si vous devez mettre 800 euros dans un loyer, vous n'êtes pas bossé au carreau, quoi. C'est clair et net. Aujourd'hui, on sait très très bien que le nombre de socioprofessionnels logent en saisonnier, font eux-mêmes la démarche d'aider dans les saisonniers, sinon les saisonniers ne viennent pas. Donc nous, on doit aussi prendre notre part, en particulier, par exemple, sur les saisonniers aujourd'hui de Soremac, où les saisonniers aujourd'hui de la commune, sur la collectivité, on a un fort pourcentage de gens qui sont des saisonniers aujourd'hui. Ben, ces gens-là, on a un mal fou. L'hiver dernier, on a eu un mal fou à recruter des saisonniers. Donc aujourd'hui, il faut, au travers de cette politique du logement, il faut recréer de l'attractivité à venir vivre sur notre territoire, et à venir travailler sur notre territoire et à venir habiter sur notre territoire. Ce type de projet fait partie pleinement, comment dire, de cette logique-là. Et je le répète une fois de plus, sans socle d'habitants permanents, sans socle de saisonniers, le tourisme s'effrite. Donc cette logique, et je ne parle pas des fermetures de classes, on va à la rentrée de septembre fermer une nouvelle classe, je ne parle pas de la difficulté par exemple du recrutement des pompiers volontaires, ça ne vous a pas échappé que les pompiers volontaires c'est plutôt des gens qui ont entre 25 et on va dire 45 ans, donc des gens qui sont un peu en forme, qui sont plutôt des jeunes couples avec des enfants, et donc c'est prioritairement ces gens-là qui vont habiter ailleurs et qui n'ont plus la capacité à habiter. Donc il est fondamental de s'occuper de ce problème-là pour consolider notre socle. La dernière chose, là je ne vous ai parlé que de projets qui sont sûrs. Évidemment, on se met aussi en position d'accélérer sur cette revitalisation d'habitat permanent. Par l'intermédiaire de la nouvelle instruction de notre PLU, dont la première marche du PLU, je le rappelle, est le PADD, dont on vous a présenté les axes. Dans le cadre de ce PLU, on va d'ores et déjà réserver des zones pour l'habitat permanent à 100% habitat permanent ou mixte. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les promoteurs seront contraints, ne pourront plus, on va dire, construire par exemple de résidences de l'IFROI. Ils ne pourront plus le faire. Sur ces zones qui ont été fléchées, il n'y aura que des sociétés qui sont à même de construire de l'habitat permanent. Par exemple, j'ai en tête ce qu'on appelle le bail réel et solidaire. Le bail réel et solidaire, c'est un peu, pour ceux qui connaissent un peu le système anglais, on dissocie la propriété du sol et la propriété des murs. Et donc, vous achetez une maison pour 100 ans, mais vous n'êtes pas propriétaire du sol. Ça veut dire que pour 100 ans, vous êtes propriétaire de votre maison, mais vous n'êtes pas propriétaire du sol. Ça s'appelle le bail réel et solidaire. Ça a une conséquence, c'est que ça baisse le prix de l'immobilier de 30 à 40%. Et donc, quand on fait ces montages-là, on rend accessible l'habitat permanent. Donc nous, on est en train, dans la révision du PLU, de flécher des zones qui vont permettre ça. Et donc, pour monter des projets qui vont être dans la logique de cette revitalisation de l'habitat permanent. Ça, c'est très très important. Aujourd'hui, il faut savoir que maintenant, depuis 2 ans qu'on travaille sur le PLU, on fait une réunion tous les 15 jours, une demi-journée, où on travaille sur cette révision du PLU. Et là, on est en train de décortiquer zone par zone l'ensemble des 37 km² pour faire ce PLU qui sera quoi ? Qui sera la colonne vertébrale structurante de tous ceux dont on vous parle. Et ce travail est absolument énorme dans la façon dont on va pouvoir construire le chemin de fer vers cette vision. Je ne parle pas effectivement j'en parlerai tout à l'heure, notamment des terrains qui vont être préservés pour l'agriculture. On continue.
On va changer de thème. On va passer sur la diversification de l'économie locale.
Voilà. Donc, sur la diversification de l'économie locale, on se l'est dit, le tout tourisme est risqué et pourtant ça reste le socle. Le tout ski est resté et risqué, mais ça reste le socle. Donc voilà, on avance pas par pas. Le ski, aujourd'hui, on n'abandonne certainement pas, je vais vous expliquer pourquoi. La diversification touristique et la diversification locale qui passe par justement, une des pierres angulaires à revitaliser l'habitat permanent et fixer les habitants sur notre territoire. Donc on a un premier projet qui est la création d'une zone artisanale qui se situe une zone qui s'appelle les racines. Les racines, c'est une zone qui se trouve juste au-dessus de la station d'épuration, quand vous descendez de Mal. Un peu au-dessus, vous voyez, il y a déjà des terres qui sont travaillées. Donc il y a majoritairement des terrains communaux qui se trouvent à cet endroit-là. Donc on a fléché cet endroit-là. On est en train de conceptualiser la configuration de cette zone artisanale. On a rencontré énormément d'entreprises locales, des entreprises qui ne sont pas que locales, parce que l'idée, c'est de se dire aujourd'hui, les entreprises locales, il faut qu'elles aient des outils et des endroits pour développer leur propre activité, et aussi d'attirer d'autres entreprises dans cette zone artisanale. Donc aujourd'hui, c'est un projet qu'on mène en collaboration avec la communauté de communes, qui est bien avancé. On avait une petite crainte dans le fameux ZAN, zéro artificialisation nette, parce que ça, ce sont des projets, vous le verrez, qui sont dans la discontinuité de l'urbanisation. Alors c'est peut-être un peu tordu ce que je dis, mais grosso modo, les terrains qui sont dans la discontinuité de l'urbanisation vont tous, qui sont aujourd'hui constructibles, vont tous être déclassés. C'est ça que ça veut dire. Et donc, pour convaincre l'État, les services de l'État, de garder certaines zones, il faut des projets bien identifiés. Par exemple, quand vous faites un resto d'attitude, vous faites des demandes spécifiques, qu'on appelle STECAL, pas rentrer dans les détails, pour faire accepter l'exception et prouver l'intérêt économique du projet que vous allez faire dans la discontinuité. Et celle-là, c'est effectivement un problème potentiel, et pour le moment, aujourd'hui, on a plutôt un retour favorable des services de l'État pour pouvoir faire cette zone artisanale. Donc ça, on est très content parce que c'est un très très beau projet, et on a une liste longue comme le bras d'entreprises qui sont déjà très très intéressées pour, intégrer cette zone artisanale. La deuxième, toujours dans cette logique-là, c'est de créer une zone tertiaire. Alors cette zone tertiaire, on a fléché une zone autour de la mairie, un peu en pôle administratif tertiaire. Et on souhaiterait en premier lieu réhabiliter le bâtiment, donc l'ancienne école d'Arrache. Et on souhaiterait le réhabiliter pour accueillir des entreprises du tertiaire et aussi en faire une zone de pépinière d'entreprise. Donc la pépinière d'entreprise, elle a une vocation, c'est de, pour une durée de 3 ans, permettre à des entreprises qui se créent de s'implanter avec un loyer préférentiel. Évidemment, la différence est assumée par la collectivité. C'est typiquement pour ceux qui connaissent la zone de la pépinière d'entreprise de Thiers, d'accord, au Forum des Lacs, on est exactement dans le même esprit, mais évidemment, notre projet n'est pas dans la dimension de ce qui a été fait à Thiers, qui est d'ailleurs tout à fait remarquable, il faut le dire. Et donc, nous, notre projet est beaucoup plus modeste. Ça serait à terme de réhabiliter ce bâtiment et potentiellement de construire un deuxième bâtiment dans l'emprise des garages qui se trouvent sur le parking de la mairie. Donc on croit beaucoup à ce type de projet, et là aussi il y a une vraie demande, parce que une demande en local, parce qu'aujourd'hui le souci des carreaux, c'est d'abord les infrastructures numériques qui sont ultra mauvaises, qui fait qu'à un moment donné, quand vous vous interrogez un Lyonnais ou un Genevois qui dit « moi je ne peux pas bosser le lundi dans mon chalet, Internet ça bug une fois sur deux », ou il y a des bandes passantes du réseau qui est mauvaise. Donc là, c'est des sujets qui sont en train de se mettre en œuvre, avec l'arrivée de la fibre, etc. Donc c'est une infrastructure numérique mêlée à ce type de projet, qui pourront aussi être des espaces de coworking. Pour l'anecdote, dans l'ancienne poste qui se situe dans le centre des carreaux, cette année, on va ouvrir un espace de coworking sur 40-50 mètres carrés pour tester un peu l'appétence, parce qu'il y a aussi un vrai besoin. Avec le Covid a provoqué un élan qui consiste à ce que les gens qui ont des chalets, qui ont des appartements, travaillent de plus en plus sur le télétravail, prolongent, j'ai envie de dire, leur séjour, et ils deviennent un peu des habitants semi-permanents. Et ça, c'est intéressant, et j'apporterai une nuance par rapport à ce qu'a dit Julien tout à l'heure, sur les 3000 habitants cibles. Moi, je traduis le truc un petit peu différemment. Moi, je dis, notre intérêt, parce que, on va dire, au mois de février, en décembre, en juillet, en août, pendant toute la saison touristique, on a bien plus de 3000. Puisque même en février, on monte pratiquement à des points de 25, voire 30 000 si on se fait sur les semaines de pic. Et quand je dis 30 000, c'est j'intègre Flemme et les Carreaux, bien évidemment, le territoire d'Arrache. Et là, moi, je suis plutôt dans une logique. Notre objectif, c'est d'avoir 3 000 habitants toutes les semaines, à minimum, au Carreau. Donc, les secondaires deviennent des permanents parce qu'ils y travaillent de temps en temps. Donc, on est plutôt dans cette logique-là. Et on pense que sur le long terme, bah, cette logique-là, elle fait quoi? Elle fait qu'on aura un petit peu plus de commerce ouvert. Vous le voyez bien, là, au mois de Carreau, c'était le désert, quoi. Vous ne pouvez même pas boire un verre quelque part. Donc aujourd'hui, continuons comme ça, on va aller droit dans le mur. Donc il faut absolument qu'on réfléchisse à tout un certain nombre de choses et qu'on crée un effet d'entraînement pour qu'on ait des commerces qui ouvrent un petit peu plus longtemps, qu'on ait des restos qui ouvrent un petit peu plus longtemps. Parce qu'après, il ne faut pas rêver, je veux dire. On peut effectivement disserter longtemps sur qu'il faut jouer le jeu de la station. Mais à un moment, de toute façon, quelqu'un qui est commerçant regarde son compte d'exploitation et l'ouvre aussi principalement par rapport à son intérêt personnel, et c'est bien normal. Par contre, moi je dis souvent, nous aujourd'hui, collectivité, on doit créer un écosystème pour favoriser, j'ai envie de dire, le développement de tous les axes dont je parle.
Donc là, je vais appeler Gwenaëlle Ruault pour nous rejoindre, parce que nous allons évoquer ensemble les projets de diversification touristique hors domaine skiable, puisque nous parlons tout à l'heure des domaines skiables avec Jean-Paul Constant. Donc, nous allons commencer par...
Alors, hors domaine skiable, pas tout à fait.